Paul Féval, Les habits noirs, livre 3, première partie, Petite reine, chapitre 1er, La foire au pain d'épices. Il y avait 4 musiciens, une clarinette qui mesurait 5 pieds 8 pouces et qui pouvait être au besoin géant belge quand elle mettait 6 jeux de cartes dans chacune de ses bottes, un trombone bossu, un triangle en bas âge et une grosse caisse du sexe féminin, large comme une tour. Il y avait en outre un lancier polonais pour agiter la cloche, un paillasse habillé de toile à matelas pour crier dans le porte-voix, et une fillette rousse de cheveux, brune de teint, qui tapait à coups redoublés sur le tam-tam, roi des instruments destinés à produire la musique enragée. Cela faisait un horrible fracas au-devant d'une baraque assez grande mais abondamment délabrée qui portait pour enseigne un tableau déchiré représentant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, des serpents bois, une charge de cavalerie, un lion dévorant un missionnaire et le roi Louis-Philippe avec sa nombreuse famille recevant les ambassadeurs de Tipu Saheb. Le ciel du tableau, où voltigeaient les hippogriffes, des ballons, des comètes, des trapèzes, Auriole en train d'effectuer un saut périlleux et un oiseau rare emportant un âne dans ses serres, était coupé par une vaste banderole déroulée en fantastique méandre qui laissait lire la légende suivante « Théâtre français et hydraulique, prestige savant, exercice et variété du XIXe siècle des Lumières, dirigé par Madame Canada, première physicienne des capitales de l'Europe civilisée. » La clarinette venait d'Allemagne, comme toutes les clarinettes. C'était un pauvre diable, maigre, osseux, habillé en chirurgien militaire. Il portait un nez considérable, qui faisait presque le cercle quand il suçait le bec enrhumé de son instrument. Le trombone bossu était de Pontoise, où il avait eu des peines de cœur en justice. Le triangle venait du quartier des Invalides, à Paris. Il avait 14 ans. À sa figure coupante, sèche, sérieuse et moqueuse à la fois, on lui donnait 20 pour le moins, mais son corps était d'un enfant. Le premier aspect ne lui était pas défavorable. Son visage, assez joli mais vieillot et déjà usé, se couronnait d'une admirable chevelure noire arrangée avec coquetterie. Au second regard, on éprouvait une sorte de malaise à voir mieux cette vieillesse enfantine qui semblait ne point avoir de sexe. Son costume, qui consistait en une veste de velours ouverte sur une chemise de laine rouge, avait l'air propre et presque élégant auprès des haillons de ses camarades. La clarinette s'appelait Köln, dit Cologne. Le trombone avait nom Poquet, dit Atlas à cause de sa bosse, et le triangle se nommait Saladin, tout court, ou plutôt Monsieur Saladin, car il occupait une position sociale. À l'âge où la plupart des adolescents sont une charge pour les familles, il joignait à son talent sur le triangle l'art d'avaler les sabres et pouvait déjà remplacer Madame Canada enrouée dans la tâche difficile de tourner le compliment. Tourner le compliment ou adresser le boniment, c'est prononcer le discours préliminaire qui invite les populations à se précipiter en foule dans la baraque. Outre sa capacité, Saladin était fort bien doué sous le rapport de la naissance et des protections. Il avait pour père le lancier polonais qui sonnait la cloche, pour nourrice le paillasse habillé de toile à matelas, pour marraine la femme obèse chargée de battre la caisse. Cette femme n'était autre que Madame Veuve Canada, non seulement directrice du théâtre français et hydraulique, mais aussi dompteuse de monstres féroces. Elle pesait 220 à la criée, mais sa large face avait une expression si riante et si débonnaire qu'on s'étonnait toujours de lui voir casser des cailloux sur le ventre avec un marteau de forge. Chez elle, c'était plutôt habitude que dureté de cœur. Le paillasse, homme d'une cinquantaine d'années, dont les jambes maigres supportaient un torse d'Hercule, avait une physionomie encore plus angélique que celle de Madame Canada. Son sourire, cordial et modeste, faisait plaisir à voir. Il remplissait les fonctions du Canada mâle qu'une mort prématurée avait enlevé à la foire. On l'appelait même volontiers Monsieur Canada, mais de son vrai nom c'était Échalot, ex-garçon pharmacien, ancien agent d'affaires, ancien modèle pour le thorax, ancien employé surnuméraire de la grande maison des habits noirs. Par un juste retour, Madame Canada se laissait donner le sobriquet d'Échalote. Il y avait entre elle et lui une liaison sentimentale fondée sur l'estime, l'amour et la commodité. Le lancier polonais, père de Saladin, n'avait pas de bonne mœur. C'était un homme du même âge qu'Échalot, mais plus soigneux de sa personne. Ses cheveux plats, d'un jaune grisonnant, reluisaient de pommade à bon marché, et il se faisait les sourcils avec un bouchon brûlé. Cela donnait du feu à son regard, toujours dirigé vers les dames. Il n'avait pas offert de bons exemples à Saladin, son fils, et la veuve Canada se plaignait des pièges qu'il tendait sans cesse à son honneur. Il avait un joli nom, Amédée Similor. Échalot et lui étaient Oreste et Pylade. Seulement, comme Similor manquait de délicatesse, il abusait de la générosité d'Échalot, qui, sans lui, aurait déjà pu prendre bon nombre d'actions dans le théâtre français et hydraulique et conduire Madame Canada à l'hôtel. Et Similor avait été maître à danser des familles, au grand vainqueur, modèle pour les cuisses, ramasseur de bouts de cigares et employé dans les bureaux déjà cités, la maison des habits noirs. L'art d'avaler des sabres endurcit peut-être l'âme. Le jeune Saladin devait tout à Échalot, car Similor, son père, ne lui avait jamais distribué que des coups de pied. Nonobstant, Saladin n'entourait point Échalot d'un respect pieux. Bien que ce dernier l'eût nourri au biberon, à une époque où 2 sous de lait était pour lui une dépense bien lourde, Saladin ne gardait à son bienfaiteur aucune espèce de reconnaissance. Échalot convenait que cet adolescent avait plus d'esprit que de sensibilité, mais il ne pouvait s'empêcher de l'aimer. La fillette brune de teint, rousse de cheveux, s'appelait Fanchon, au théâtre Mademoiselle Freluche. Elle dansait sur la corde assez bien, elle était laide, effrontée et sans éducation. Elle aurait voulu faire celle de Saladin qui la dominait de toute la hauteur de son talent, car le lecteur ne doit pas s'y tromper. Saladin avait l'intelligence de Voltaire, fortifiée par les trucs les plus avantageux en foire. C'était vers la fin d'avril 1852, l'avant-dernier jour de la quinzaine de Pâques, époque consacrée par l'usage et les règlements à cette grande fête populaire, la foire au pain d'épices. Depuis bien des années, on n'avait pas vu sur la place du trône une si brillante réunion d'artistes brevetés par les différentes cours d'Europe. Outre les marchands de nonnette et de pavés de Reims, tous fournisseurs des têtes couronnées, il y avait là le dentiste de l'empereur du Brésil, le pédicure de sa très gracieuse majesté la reine d'Angleterre, et le savant chimiste qui fabrique les cuirs à rasoir de l'autocrate de toutes les Russies. Il y avait aussi, bien entendu, la dame incomplètement lavée qui tire les cartes aux archiduchesses d'Autriche, la somnambule ordinaire des infantes d'Espagne, l'abancérage qui livre aux palatins le vernis pour leurs chaussures, et le général argentin qui, non content de dégraisser la cour de Suède, fourbite encore les casseroles du palais de Saint-James, recolle les porcelaines de l'Escurial et vend, par privilège, le poil à gratter à toute la maison du roi de Prusse. Quelques philosophes se sont demandé pourquoi ce burlesque et pompeux étalage de recommandations royales en plein faubourg Saint-Antoine, qui ne passe pas pour être peuplé de courtisans. Il y a un dieu malin, occupé du matin au soir à poser ses problèmes qui embarrassent les philosophes. Tandis que le milieu de l'immense rond-point était encombré de boutiques où vous n'eussiez pas trouvé un seul paquet d'un sou qui ne fût timbré d'un ou deux écussons souverains, le pourtour réservé aux théâtres et exhibitions ne se montrait pas moins jaloux d'étaler des protections augustes. Je suis certain qu'au plus épais du Moyen Âge, les marchands forains rassemblés au camp du Drap d'Or ne hurlaient pas avec tant d'emphase les noms des rois et des empereurs. Toute l'aristocratie de la baraque était là, le célèbre Cochery, la roche universelle, les singes polytechniques, les tableaux vivants, la sibylle parisienne, le cheval à cinq queues, la pivoleuse, l'enfant en céphale, le petit cerf savant qui passe dans un cerceau, la lutte à main plate, Arpin, Marseille, Rabasson, des albinos, des nègres, des peaux rouges, des phoques, des crocodiles, l'hermaphrodite, le boa constrictor, le lapin qui joue au domino, l'homme à la poupée, les jumeaux de Siam, l'adolescent squelette, le salon de cire et cette cabane percée de cinq trous où l'on voyage pour deux sous à travers les cinq parties du monde. Il était 5 heures du soir, le temps menaçait. Pourtant, et de si grandes attractions, la place du trône contenait à peine en ce moment une centaine de flâneurs endurcis qui regardaient volontiers les bagatelles de la porte, mais qui ne montraient aucune envie d'entrer. Pour ces 100 badauds, les 1000 pitres saltimbanques, paillasses, marquis et mères gigognes faisaient assaut désespéré de coquetterie. C'est à cette heure de disette que les artistes en foire déploient le mieux leur vaillance proverbiale. Porte-voix, gong, tam-tam, grêcel, tambour, trompette, grosquet, sophicléide s'acharnent à produire un tapage infernal, lors même qu'il n'y a plus personne pour les entendre. L'idée a dû venir plus d'une fois à Bilboquet abandonné d'incendier sa boutique pour avoir l'occasion de crier au feu. Cela attirerait peut-être du monde. Les clameurs se croisaient avec une violence inouïe. C'était un pêle-mêle de contorsions véhémentes, de dents furieuses, de coups de pied, toujours adressés au même endroit, de cris, de gestes, de sons de cloches, de vibrations métalliques, de chansons, de pétards et de fanfares. « Prenez vos billets, il faut le voir pour le croire. Deux sous, le seul phénomène vivant qui ait reçu une médaille d'or de la propre main du prince Albert. Jing-boum, pan-pan. Sa malheureuse mère mourut de douleur en voyant le monstre à qui elle avait donné le jour. Tara, tara, tantara, tantara, couac, couac. On offre 30 000 francs comptant à qui montrera le pareil vivant. Entrez, il y a encore 6 places, ce sont les meilleurs. Suivez le monde, on verra le lion marin manger l'enfant à la mamelle. Ah, ce n'est pas un franc, ce n'est pas un demi-franc, ce n'est pas même 25 centimes, bzoum, dink. 18 ans, 200 kilogrammes, et des attraits supérieurs à son poids. On commence, 2 sous, 2, 2. Le théâtre français et hydraulique était situé à l'extrémité de la place du trône, à gauche en montant du côté du boulevard de Montreuil. Bonne place le dimanche, où le flot vient de la barrière, mauvaise place en semaine, où les visiteurs, plus rares, arrivent du côté de Paris. L'eau va toujours à la rivière. La roche, le Rothschild des bonisseurs, et cette puissante famille Cochery, qui est l'opéra de la foire, prennent invariablement les bons endroits. La journée n'avait pas été heureuse, malgré un charmant soleil de printemps, et le ciel noir présageait une soirée nulle. Madame Canada, coiffée d'étoupe et portant sur son dos éléphantin un petit caraco d'indienne Pompadour, battait la caisse avec une résignation mélancolique. Cologne, le clarinette, et Poquet, dit Atlas, le trombone, soufflaient dans leurs terribles outils avec découragement. Et Saladin, l'héritier présomptif, épluchait son triangle mollement. Similor cherchait en vain à l'horizon des dames à qui décochait le trait galant de son regard et agitait la cloche comme par manière d'acquis. Seul paillasse échalot, imperturbable dans sa constance, envoyait au travers de son porte-voix des appels mugissants, tout en relevant par de bonnes paroles le désespoir de ses compagnons. « On n'a jamais rien vu d'analogue dans Paris » criait-il.
« Allez, mademoiselle Freluche, nom d'un cœur, tapez le chaudron comme un amour, ou vous n'aurez pas d'oignon dans votre soupe.
Jamais, 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 on ne verra rien de si agréable. »
« Ferme, madame Canada, la jolie des jolies, un peu de nerfs, Similor. »
« C'est la dernière, unique et irrévocable, avant le départ de la grande machine américaine, électrique, pneumatique et agricole pour le Portugal, dont l'Académie des sciences nationales a voulu l'examiner en détail pour en faire un rapport à monsieur Le Verrier.
Hey, »« Vas-y, Cologne, Pouce Poquet, hein, voilà, trois pays là-bas qu'on peut faire, et un artilleur, et une petite dame blonde avec sa minette.
Les grandes eaux de Versailles au naturel, terminées par la chute du Rhin à Chaffouze, avec les embarcations entraînées par le courant du fleuve, qui est la frontière naturelle de la patrie.
Encore deux ou trois artilleurs. Ah, c'est pour les trois pays, c'est dur.
Héloïse et Abélard, par Mademoiselle Freluche et le jeune Saladin, premier élève au conservatoire de la Sicile, conquise par le général Garibaldi.
Attention, les deux grosses mères et leur garçon boucher. Au carillon, Amédée.
La mort d'Abel, par le même qui avalera trois sabres de cavalerie et cassera une demi-douzaine de cailloux sur les appâts de Madame Canada, première physicienne de l'observatoire.
Eh, nom de nom, regardez, un pair de France étranger ou marchand d'esclaves des colonies. Ah, c'est pour la petite blonde. Allume!
Danseuse et élévation sur la corde raide par Mademoiselle Freluche, unique élève dont Madame Saki a cessé depuis quelque temps de paraître en public par la jalousie qu'elle lui inspire. Madame Saki, Madame Saki, Madame Saki.
Tout héroïsme a sa récompense. Quand Échalot s'arrêta épuisé, il y avait au moins une douzaine et demie de badauds devant la plateforme du théâtre français et hydraulique. Trois artilleurs, trois picardes, deux bonnes femmes, entre lesquelles un jeune homme faisait le panier à deux anses, quatre ou cinq soldats de la ligne et autant de gamins. Il y avait en outre la jeune femme blonde donnant la main à une adorable petite fille de 3 ans et un personnage de grande taille, très brun de poil, plus brun de peau, qui suivait d'un œil fixe et sombre la jolie dame et son bijou de petite fille. L'armée de Madame Canada, électrisée par cette affluence inattendue, s'éveilla. Le lancier polonais agita sa cloche avec fièvre, en dardant aux pays, aux grosses mères et à tout ce qui portait jupon des œillades incendiaires. Dans l'humble situation que le sort lui avait faite, cet homme était le type pur de Don Juan. La musique éclata et Mademoiselle Freluche lança des taloches frénétiques au tam-tam, tandis qu'Échalot poussait des rauquements de tigre dans son porte-voix. Hélas, tout cela fut inutile. Les trois pays passèrent, et certes, malgré la douceur de son naturel, Madame Canada les eut volontiers étranglées, car elles entraînèrent à leur suite les trois artilleurs. Les deux grosses mères, avec leurs garçons bouchers, suivirent, attirant les gamins que ce trio divertissait. Les cinq soldats de la ligne firent comme les gamins, et la jolie blonde elle-même, tournant le dos en sens contraire, prenait déjà la route du faubourg Saint-Antoine lorsque sa petite fille dit d'une voix gentille et doucette comme le chant d'un oiseau « Maman, je voudrais voir Madame Saki. »«
Madame Saki, Madame Saki, Madame Saki !» rugit Échalot dans son porte-voix « Dessous, dessous, dessous !»
L'enfant pesa sur la main de sa mère qui s'arrêta aussitôt.
« Amorcé !» murmura le jeune Saladin, qui suivait la scène muette d'un regard déjà connaisseur.
Les yeux de Saladin étaient assez beaux, mais dans l'action de regarder fixement, ils s'arrondissaient comme des yeux d'épervier. La jolie blonde éleva l'enfant dans ses bras, en un mouvement de caresse passionnée. « Nous demeurons bien loin, dit-elle, et il est tard. Demain, si tu voulais, petite reine, nous descendrions voir la danseuse de cordes du pont d'Austerlitz. »
« Non, répondit Petite Reine, c'est aujourd'hui, c'est Madame Saki que je veux voir. »
La jeune mère obéissante monta l'escalier tremblant qui conduisait à la plateforme. Madame Canada, enlevant d'une main sa partie de grosse caisse et faisant grincer de l'autre sa paire de cymbales ébréchées, enveloppa la mère et l'enfant dans un regard de tendre gratitude. Elle avait bon cœur, elle les eut embrassés. Et il y avait de quoi, car le père de France étranger suivit la piste de la jolie blonde en rabattant son chapeau sur ses yeux. Deux demoiselles, dont nous n'avons pas encore parlé et qui semblaient ne point appartenir au monde gourmet du faubourg Saint-Germain, suivirent ce marchand d'esclaves. Trois commis de magasin suivirent les deux demoiselles. Les cinq soldats de ligne, ayant vu cela, se consultèrent. Partout où l'on va, ils vont, le nez au vent, l'air étonné, la conscience sereine. Ils emboîtèrent le pas. Les trois gamins se dirent, « Paraît qu'il y a quelque chose de fameux », et ils prirent la file. « Oui, fit le garçon boucher à ses deux grosses mères, payez-vous les spectacles ?» Et les trois artilleurs, saisissant cet instant pour offrir leurs bras aux trois payses, proposèrent les délices du théâtre en vogue. Vous voyez si Madame Canada devait de la reconnaissance à Petite Reine. « Dessous, 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 prenez vos billets !» De tous les coins de la place, les moutons de Panurge arrivaient. « Suivez le monde !» La baraque était pleine. Échalot, altier comme une tour, finit par se mettre au devant de l'entrée et renvoya un dernier gamin d'apparence insolvable en disant « Complet ! Ah, si je possédais la vaste salle de l'Académie de musique, jeune homme, je ne serais pas obligé de refuser tous les jours ma fortune !»